Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour ta parole parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as donné ton esprit et tu nous as laissé ta parole et tu dis le ciel et la terre passeront, mais pas un seul trait de lettre ne passera de ma parole. Et Seigneur, nous voulons prendre cette parole au sérieux et vraiment nous soumettre à ta parole. Nous demandons ton aide au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous demander de prendre le passage de Éphésiens 4, que nous connaissons bien, mais vous savez, la parole de Dieu est tellement riche que nous pouvons prendre certains passages dans tous les sens et on va toujours trouver à creuser des choses nouvelles. Amen, des choses anciennes et des choses nouvelles, comme le scribe dont parlait Jésus. Donc, on va lire dans Éphésiens 4 au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà, on va arrêter là. Alors juste un petit dessin, moi j'aime bien les petits dessins. Donc nous voyons que Christ est mort à la croix, et dans ce passage, il est dit qu'il est descendu, ensuite qu'il est monté pour redescendre. C'est pas beau ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tom, tu comprends tout ça? Christ, il est venu, il est mort, il est descendu, il est monté. Et d'une part il revient, mais ça c'est un peu plus tard. Mais immédiatement, dans ce laps de temps, hein, je ne sais pas dans quel laps de temps ça s'est produit, en tout cas entre Pâques et la Pentecôte, et on est dans ce temps-là, donc voilà, c'est un temps, de toute façon c'est pas le temps qui est important, mais c'est ce qu'il a fait. Donc il est descendu. Qu'est-ce qu'il a fait Tom quand il est descendu? Tout à fait. Puisqu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Pardon? Oui. Oui. C'est très bien. Mais il y a des petites choses qui te manquent, parce que tu n'as pas encore toute la Bible. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose à son ange, ce qui est vrai, ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait quand il est descendu? Pardon? Voilà, alors, c'est un verset qui dit qu'il a prêché aux esprits en enfer, parce que là, c'est l'enfer ou le tartare, enfin, tout, suivant les mots bibliques, c'est l'enfer, hein, parce que la Bible montre qu'il y a d'autres créatures que nous, que les hommes, que Dieu a fait, et il est puissant, hein, il fait un tas de créatures. Et ces créatures qui ont désobéi, elles sont dans l'enfer, elles sont dans le tartare, elles sont emprisonnées. Et donc, Jésus est venu leur prêcher aux esprits en prison. Et ensuite, après, il est monté au ciel pour recevoir la couronne. Vous voyez la couronne violette qui est là-bas, la couronne du règne. Donc là, il est assis à la droite de Dieu pour régner avec Dieu. Maintenant, il règne. Et qu'est-ce que ça veut dire le verset qui a dit il a donné des dons? Oui, tout à fait, le Saint-Esprit. Ça c'est nous, hein, ça, c'est l'Église, hein, c'est nous. Il a donné des dons, voilà, des ministères, ouais. Donc des dons pour le ministère, pour le service. Ministère et service, c'est le même mot. Hein. Okay. Donner des dons aux hommes. Et cela pourquoi? Alors quel est le but? Alors moi j'aime bien savoir les buts. Hein. Vous savez ceux qui jouent du foot, Tom, tu aimes bien les buts? Tu tires dans les buts ou tu tires dans le n'importe où dans les buts ou les corners, non? Des fois les corners. Non mais vous voyez quand on a des objectifs, on aime bien les buts. Donc c'est quoi le but? Pourquoi il fait ça? Perfectionner. Pardon? L'unité de la foi. Connaissance, donc relation avec Jésus. Édification. C'est bien, vous savez tout. Comment vous faites? C'est super. J'ai rien à faire. Parce que vous lisez, c'est ça. Bien. Lisez la parole. Amen. Voilà, donc le but, c'est perfectionner les saints, d'aller vers l'unité de la foi, avoir une relation avec Jésus, l'édification. Tous ces mots, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? J'aime aussi les synthèses, moi, parce que quand il y a trop de choses, j'arrive pas à me rappeler. Donc la synthèse, c'est juste un concept. Pardon? Ah, très bien. Très bien. Bah, vous êtes en train de faire mon message, hein, c'est bien. Quelle est la synthèse que vous pouvez tirer de toutes ces recommandations, enfin, tous ces buts, voilà. Pardon? Oui. Oui, la maturité. Est-ce que ça veut dire, je vous mets sur la piste, est-ce que ça veut dire que c'est un concept où tout est fait, vous n'avez rien à faire, ou est-ce que c'est un concept de progression? Processus. Il y en a qui disent processus. D'autres qui disent quoi? Dites un mot qui vous parle, parce que comme ça vous le retiendrez. Croissance. Maturité. Renouvellement. Bon. Ce que je vous encourage, c'est pas à garder des mots qui signifient rien. Enfin, dans ce contexte-là. Les mots qui signifient quelque chose, c'est processus. Ça, pourquoi? Parce que, perfectionner, hein, c'est vous n'êtes pas perfectionné du jour au lendemain, donc c'est un processus. Transformation, sanctification, c'est quelque chose qui est en progression, d'accord? Hein, c'est quelque chose qui bouge, c'est-à-dire c'est continu, c'est une action continue, d'accord? C'est-à-dire si aujourd'hui vous pouvez pas être perfectionné. Quelqu'un fait... Qu'est-ce qui apprend la guitare? Je sais plus. J'ai vu ce matin quelqu'un. Maureen, hein? Aujourd'hui, tu as besoin de te perfectionner. Même Claire a besoin de se perfectionner. Vous voyez, dans un instrument, on comprend ça. Mais dans la vie chrétienne, on a l'impression que tout est fait. Non, on est dans un perfectionnement. En vue de... Donc les dons, voilà. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a envoyé des dons en vue de perfectionner. En vue, c'est une action continue. Alors... Est-ce que la Bible était inspirée de Dieu? Oui. Dans quelle langue elle est inspirée? En français? Est-ce que la Bible a été écrite en français? Pardon? L'hébreu et le grec. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez tous des traductions, sauf si dans la salle quelqu'un lit le grec et l'hébreu. Bon, rassurez-vous, moi non plus. Mais Jack et Ford, puisque j'étais en école, moi j'aime bien me perfectionner, j'étais dans l'école avec Jack et Ford il y a un mois, il nous a recommandé, en tant que pasteur, hein, je dis bien, de sonder le grec et l'hébreu. Alors rassurez-vous, là aussi, Jack et Ford ne connaît pas l'hébreu, non plus. Bon, c'est pas parfait non plus. Mais on a des outils maintenant. Des outils qui permettent de savoir ce que le mot grec et le mot hébreu veulent dire. Je dis ça parce que l'inspiration a été donnée à des hommes et des femmes qui ont écrit dans la langue où elle a été écrite, donc hébreu et grec. Et c'est dans ces mots-là que l'inspiration, vous avez le sens vrai du souffle que le Saint-Esprit vous donne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas être pédant quand je cite des mots grecs ou hébreux parce que moi-même je ne sais pas, donc je suis humble comme vous. Mais je les cite simplement pour que vous puissiez vous détacher de vos mots à vous, parce que nos mots à nous, D'une part, ils peuvent signifier autre chose, et des fois un mot peut signifier 5, 6, voire 20 concepts différents. Donc, quel est le mot qu'on choisit? Et très souvent, comme ça, on n'arrive pas à nous repentir. Vous voyez, la métanoïa, c'est changer de mentalité. Et pour changer de mentalité, il faut bien qu'on comprenne ce que la parole de Dieu dit. Allô? D'accord, Claire? Tu me regardes comme ça. Non, c'est vrai? Non, non, mais t'es convaincu. Voilà. Donc, pour que nous puissions nous repentir régulièrement. Métanoïa. Il faut bien savoir ce que veut dire mot. Ici, les mots qui sont utilisés, c'est perfectionner. Quand je dis perfectionner, je suis sûr que si je vous interrogeais tous, on n'a pas le temps ce matin, chacun donnera une autre définition de perfectionner. Perfectionnement chrétien, c'est quoi? Je vous dis ça parce que depuis 2000 ans, toute la palette de perfectionnement a passé. Hein. Je ne vais pas vous en parler ce matin, mais il y a beaucoup de déviances chrétiennes aujourd'hui même dans les églises, qui sont liées au fait qu'on ne comprend pas ce que veut dire perfectionner. Alors, le mot perfectionner ou parfait, c'est quoi le mot grec? Il y en a quelqu'un qui le connaisse? C'est téléios. Télé, comme la télé, vous regardez la télé. Eios. Ok? Voilà, c'est téléios. C'est-à-dire que quand vous lisez ce passage d'Éphésiens, dans l'original qui a été écrit par Paul, c'est le mot téléios qui est utilisé. Ce mot-là, c'est donc parfait. Ben, nous, on le traduit par parfait. Parfait, perfectionné, c'est aussi adulte, être adulte, donc une image d'analogie adulte. Alors, avant ça, il y a deux autres mots qui sont utilisés dans un autre passage que je vais vous demander de prendre, qui se trouve dans 1 Corinthiens, alors on va lire, bon, tout le chapitre 2 parle de cette se combattre la chair et l'esprit, hein, ceux qui sont spirituels, ceux qui ne le sont pas. Au verset 13, il dit « Nous n'en parlons » verset 12, pardon. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, en expliquant les vérités spirituelles à des hommes spirituels. Là, le mot qui est utilisé, c'est pneumatikos, c'est spirituel. Pneuma, c'est le souffle de l'esprit. Mais ça rejoint l'idée de téléios, on le verra plus tard. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, etc. Et au chapitre 3, verset 1er, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, donc pneumatikos ou téléios, si vous voulez, j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Et le mot charnel ici, vous voyez là aussi, si on comprend pas bien, on pense à chair, c'est la peau et tout ça. Non, charnel, c'est attendez, je ne dis pas de bêtises. C'est sarkonoi. Sarkonoi. C'est utilisé. Sarko. Ah oui, c'est pas Nicolas. Hein, c'est pas. Non, c'est pas Nicolas. Hein. Sarko veut dire chair en grec. Des hommes charnels. Je parle pas de Nicolas. Hein. On est dans la politique. Sarkonoi, c'est sarx. Sarx, c'est la chair. Donc je vous parle comme à des hommes. Sarkonoi, comme à des petits-enfants en Christ. Les petits-enfants, alors les enfants, c'est népios, les népios. Donc vous avez les enfants, vous avez les hommes charnels, et vous avez les hommes parfaits. Trois niveaux qui sont utilisés dans beaucoup d'autres disons passages de l'Écriture, et qui sont en fait le fondement de la vision que vous connaissez, c'est la vision de l'Église, c'est, tout est basé là-dessus, c'est les trois volets de la vision qui explique, vous savez, dans ce petit feuillet, c'est ça, hein, c'est les trois niveaux, népios, sarkonoi, téléios. Donc l'objectif de Dieu pour nous, en tant que chrétiens, c'est d'envoyer des ministères. Enfin, Jésus envoie des ministères sur la terre, après être monté au ciel, parce qu'il a reçu le règne, il a reçu le pouvoir, il envoie des ministères de ces cinq dons particuliers pour perfectionner les saints, pour faire d'eux des télé des téléios. Et en grec, le verbe qui est téléiosis, c'est un verbe qui exprime la continuité, c'est un présent continu. Voyez-vous, en France, on a le présent, le futur. Alors, ne me demandez pas la grammaire, j'étais nul. Donc là, je m'appuie sur ma femme quand j'ai besoin de grammaire. Mais bon, je sais quand même qu'il y a le présent, le futur. Alors qu'en grec, c'est un présent continu. Quand vous dites « je marche », ça veut dire « je continue à marcher ». Comme en anglais ? Ah bah merci de m'aider. Hein. Là, je suis nul en grammaire. Voilà, « doing ». Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez, en grec comme en anglais, c'est quand on parle du présent, on dit que le présent continue. Vous voyez, donc on va vers un futur. Ça veut dire que quand le mot téléos est utilisé, ça veut dire que c'est une action continue. C'est pour ça que je vous ai posé la question, qu'est-ce que l'ensemble de tous ces mots veulent dire pour vous ? Effectivement, en tant que Français, on n'est pas bien équipé pour répondre, parce qu'on pense que c'est une action figé comme ça. Alors qu'en grec, tout ça, c'est quelque chose qui est continu. Aujourd'hui, Dieu demande à être parfait, avec la perfection relative qu'on a, mais il veut qu'on grandisse dans la perfection. Qu'on ait de la foi, mais qu'on grandisse dans la foi. Qu'on ait une relation avec Jésus, mais qu'on grandisse dans la relation avec Jésus. Qu'on soit édifié, mais qu'on continue à s'édifier. Vous voyez le... Comment on dit, vous pigez ? Voilà. C'est juste pour montrer que quand on lit le grec, c'est pas la même chose que le français, parce que on a des mots qui sont traduits, parce qu'il faut bien traduire, mais on n'a pas l'esprit. On ne tire pas les mêmes choses parce qu'on n'a pas les mêmes compréhensions. C'est pour ça qu'il faut, bien sûr, quelqu'un explique, mais le mieux, j'encourage les jeunes à apprendre le grec. Moi, j'ai pas pu le faire, je suis très mauvais en langue. Mais faites-le, parce que ça va vous aider si vous voulez servir le Seigneur. Donc, nepios, sarkonoi et teleios. Ce que je voudrais parler, c'est pas de ça, parce que j'ai pas le temps, mais c'est de parler du projet pastoral. Le projet pastoral, alors je l'introduis par ça, vous comprendrez plus tard. Le projet pastoral, c'est quoi? Il y en a qui savent ce que c'est que le projet pastoral de l'église, d'Elisabethville? Alors les nouveaux, non, parce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Projet pastoral. Ça fait à peu près 15 ans qu'on fait des projets pastoraux. Donc, vous voyez, comme quoi, l'art de la... Moi, je suis très mauvais pédagogue. Mais tous mes frères et sœurs sont excellents, sont tous dans l'enseignement. Je suis mauvais. J'aime pas répéter. Mais je m'aperçois qu'il faut le faire, parce que ça rentre pas. Le projet pastoral, tous les ans, l'Église, en conseil et en assemblée générale, décide d'un projet pour l'année, qui est un projet théologique. C'est un projet sur lequel l'ensemble des messages sont construits. Et quand je fais venir un invité, je lui dis, voilà, notre projet pastoral, voilà, c'est ça. Mais sentez-vous libre. Si le Saint-Esprit vous donne un autre projet, enfin, un autre message, vous le faites. Mais je leur dis, ok? Parce que l'idée, c'est que pendant une année, l'idée, c'est que l'Église soit enseignée sur une chose principale. De manière à ce que cette chose, on puisse l'intégrer, mais la mettre en pratique. Parce que ce qui est important, c'est de mettre en pratique la parole. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée du projet pastoral. Et depuis 1998, quand on a refondé l'Église après des difficultés, le Seigneur nous a dit, il faut des projets pastoraux. Et ce projet donne un sens à ce que notre édification, okay, notre construction, voyez, parce que si nous voulons avoir l'unité de la foi, il faut l'unité. Il y a l'idée d'unité. Okay, il faut que croyons la même chose. Il faut que nous vivions la même chose. Parce que là, c'est l'idée du corps. Okay, chacun d'entre vous, vous pouvez être édifié par toutes sortes d'enseignements, ou de petits versets, de bobgas, ou tout. Mais en tant qu'église, il faut un projet. Okay. Donc le projet, c'est que nous puissions être perfectionnés, d'ailleurs une unité de la foi, une relation avec Jésus qui grandisse, l'édification, basée sur la parole, à partir de projets pastoraux. C'est le Seigneur qui nous a mis ça, et comme il nous a montré, je ne vais pas le changer. Tous les ans, on a un projet pastoral. Donc, le projet pastoral, il a un élément fixe et on lui rajoute quelque chose. En 1998, il fallait construire l'église. Donc le projet de base, c'était bâtir l'église d'Élisabethville. C'était quoi exactement? Avec voilà, quelque chose. Et puis, depuis 2000, nous avons changé de projet en disant bâtissons quoi? Qu'est-ce qu'il sait? Le royaume de Dieu avec. Pourquoi ça? Parce que le Seigneur nous a dit que maintenant l'Église est arrivée avec tous ces enseignements-là. Mais si vous ne les connaissez pas, vous pouvez reprendre. Hein, il y a des cours de rattrapage. Hein. Donc, ceux qui ne savent pas. Parce que si vous voulez qu'on ait l'unité de la foi, il faut connaître ce qu'on a appris pour que vous puissiez rentrer dans les mêmes pas que ceux qui sont déjà, qui ont déjà passé par là depuis 98. Ici, c'est bâtir le royaume. Parce que maintenant, le Seigneur nous demande de sortir. Hein. L'Église est construite. Les structures sont là, les fondements sont là, il faut sortir. C'est pour ça qu'on est dans la phase d'évangélisation, d'ambassade. Toucher le royaume de Dieu, les personnes qui sont autour de nous avec le royaume de Dieu. Et ici, donc, on a 12 avec. Hein? C'est quoi les 12 avec? Alors là, je suis au col, hein? C'est pas une colle, puisque vous devriez le savoir. Nul n'est censé ignorer les projets pastoraux dans cette église. Okay, c'est un axiome. Alors, par quoi on a commencé à 98? Ceux qui étaient là, ils le savent, puisqu'ils l'ont vécu. Pardon? La repentance. Amen. Et la repentance, c'est pas juste un concept théologique qu'on a appris pendant un an. C'est que on est censé le mettre en pratique tous les jours de notre vie. Vous voyez, c'est que on a un projet pastoral de l'Église, mais ça fait partie de l'héritage. C'est pas juste un livre qui est là. Pendant un an, on a fait la repentance. C'est que on utilise l'outil qui consiste de la repentance pour nous l'appliquer à chacun de nous. Pas uniquement les nouveaux qui viennent, ils sont censés le faire, mais aussi chacun de nous. Parce que la repentance, elle est continue. Okay? Comme teleios. C'est quelque chose qui est aujourd'hui et qui continue. Jusqu'à la fin, il faut que nous marchions dans un esprit de repentance. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que sinon, je vais pas avancer. La deuxième année, 99, c'était quoi? Oui, alors bon, je vais vous les dire parce que il y a des vérités là, mais je vais vous les donner pour aller vite. La prière. Toute une année sur la prière. Et si on n'avait pas prié, l'église serait pas là. Et je m'attends à ce que Florence pense à ça pour que ce soit pas la dernière seconde qu'on puisse prier Objectif France avec les présidents, tout ça. On a prévu des 24-2 pour que dans les 4 semaines qui sont là, on puisse rester dans cette attitude de prière. Sans la prière, une église ne peut pas tenir. Amen. Sans la repentance, une église ne peut pas exister. C'est pas une église. S'il n'y a pas de repentance, c'est pas d'église. Hein. Ok, c'est un club, c'est tout ce qu'on. Prière. Les dons spirituels en 2000. La clarté de communication dans les couples, les uns avec les autres, etc. On a balayé tout cet aspect de la clarté de communication. Et c'est là que le Seigneur nous a montré clarté, droit, conduit à l'autorité. Amen. Et ça, l'esprit d'Isabelle ne peut rien contre. Les plus puissants esprits territoriaux sont vaincus par ce processus clarté, droit, autorité. Le corps de Christ, en 2000, il s'est passé un miracle. Moi, je suis dans cette région depuis 1974. Jamais on a réussi à faire l'unité des églises. Cette année-là, Dieu a permis, par un miracle, que toutes les églises réunissent ici. Et ici, l'esprit territorial qui est ici a été vaincu ce jour-là. Ce jour-là. C'est formidable. L'esprit puissant qui était lié à ces lieux a été vaincu par le corps de Christ. Le corps de Christ, sur une région, est important. L'unité est importante. Vous dites amen? Mais nous, on l'a vécu. Moi, je sais ce que c'est. Et c'est toujours un combat d'être dans l'unité. Donc, il faut prier, puisque cette année, on ne peut pas faire de culte en commun. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'unir. Mais c'est très important, le corps de Christ. En 2003, l'identité. L'identité en Christ. Notre identité en Christ. Et ça, aujourd'hui, il existe des livres qu'on vous recommande, en tout cas les nouveaux, de le faire, parce que ça vous donne votre véritable identité chrétienne. Et moi, j'ai même une carte d'identité, je ne vais pas sortir, mais j'ai 2 cartes, et des fois, avec les policiers, il faut que je fasse attention de ne pas montrer ma carte d'identité chrétienne, parce que elle est tout à fait différente de la carte nationale française. La grâce. En 2004, la grâce. 2005, la croix. L'importance de la croix. 2006, le Saint-Esprit. 2007, la vérité qui a franchi. 2008, la vérité sur nous. Sur nous. Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que nous savons notre vulnérabilité? Est-ce que nous nous confions en Christ? Voilà. Et acceptons la relation d'aide, etc. En 2009, nous avons changé de braquet. On est passé à bâtir le royaume de Dieu avec Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. Amen. Nous pouvons y aller parce que Christ est en nous. L'adoration. Louange, l'adoration. En 2011, l'obéissance. L'obéissance. C'est par l'obéissance que nous pouvons être agréables à Dieu. Et cette année, c'est l'eau vive. L'eau vive. Il y a eu plusieurs propositions. Moi, je me suis soumis à l'Assemblée générale qui a choisi l'eau vive. L'eau vive. Amen. Bâtissons le royaume de Dieu avec l'eau vive. Disons-le tous ensemble. Bâtissons le royaume de Dieu avec l'eau vive. Ça, c'est le projet pastoral de cette année. Alors, vous réjouissez de ce projet? Dans le cadre de ce projet, d'ailleurs, on a prévu en septembre de faire Cleansing Stream. Cleansing Stream, c'est un processus de délivrance qui a été mis en place par John Bevere et Jackie Ford, et qui est enseigné par une association à part, un organisme à part, qui en France est représenté par Nathalie Gendron, et nous avons l'éminente paroissienne là-bas, Elsa Casalis, qui est au bénéfice déjà avant nous de ce ministère, et j'espère qu'elle pourra venir avec Nathalie pour nous l'enseigner à partir du mois de septembre. Bâtissons le royaume de Dieu avec l'eau vive. Je vais juste essayer à nouveau de vous faire réfléchir à l'aspect de l'eau. C'est important que dans le cadre de ce projet pastoral, nous sachions ce que veut dire l'eau dans la Bible. L'eau. Ok ? Quel est le symbolisme, puisque quand on utilise l'eau, il y a derrière le symbole de l'eau. Quels sont les symboles qui vous viennent à l'esprit de l'eau dans la Bible? Purification. Quoi encore? Je veux simplement des mots, pas des concepts de cérémoniel, mais des mots. Purification, ça me va bien. Pardon? La vie? Amen. La vie? Qu'est-ce qui a dit la mort? La mort. Et quoi encore? Oui, ça rentre dans purification, si tu veux. Non, il y en a juste un que vous n'avez pas oublié, mais qui est derrière moi, sous forme de sous forme de logo. Pardon? Guérir. Guérison. Où est-ce qu'il est, le symbole de guérison, ici, là-haut? La coupe bleue. Enfin, bleu signifie autre chose encore. Bon, mais c'est la coupe. Jésus sauve, Jésus guérit. Amen. Jésus baptise de l'esprit, Jésus revient. Ces quatre, en gros, ces quatre symboles. Ce symbole-là est utilisé essentiellement dans quel type de verset, dans quel type d'explication biblique, purification? Pardon? Oui, surtout l'ancienne alliance. Alors bon, comme j'ai pas trop le temps, je peux pas faire trop d'interactivité. Voilà, c'est le baptême, mais quel baptême? Pardon? Baptême d'eau? Oui, comment il s'appelle encore le baptême d'eau? Bon, j'entends des vraies réponses, mais qu'est-ce qu'il est dit? Repentance? Baptême d'eau? Comment il s'appelle Jean? Jean-Baptiste. Baptême de Jean-Baptiste. Alors, où est-ce qu'il est le baptême de Jésus là-dedans? Non. Il est baptisé là. Rappelez-vous, oui? Pardon? Non, ça c'est autre chose. Ça. Elle est baptisée là, là. Qu'est-ce que je vous ai appris là? Allô? Tu l'as pas entendu, si tu l'as entendu, c'est la base. Il est là, le baptême de Jésus. Ah, vous n'osez pas le dire. Hein. Ah, quand on n'est pas sûr, hein, on fait du raisonnement. Je ne vous demande pas de faire du raisonnement. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a mort en face qu'il ne faut pas que ce soit le baptême de Jésus. Hein. Ce n'est pas du raisonnement, la Bible. Hein. C'est la parole qui donne une vérité. Je reviendrai là-dessus. La vie, c'est quoi? Quel est le passage qui parle de la vie? L'eau de la vie. Puisque c'est le thème pastoral. L'eau de la vie. Oui, c'est à quel endroit ça? Bien. Jean 4. Moi, je me rappelle par la Samaritaine. Jean 4, c'est la Samaritaine. Okay. Oui, moi j'aime bien les images, moi. J'aime bien. Je suis comme Kevin. Belles choses concrètes, images, tout ça. Mais comme ça, ça reste. Samaritaine. Okay. C'est avec le puits, vous savez, tout ça. Bon, alors c'est Jean 4, mais c'est la Samaritaine. Ensuite, la guérison. C'est où la guérison? Oh, c'est un peu partout, hein. C'est un peu partout. Moi, je vous donne 1 Pierre 3:21. Attendez. Non, Zacharie 14:8. Et là, vous avez un passage magnifique de guérison. Un passage magnifique de l'eau de la guérison. C'est où? Apocalypse. Apocalypse 21. Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué qu'un fleuve sort du trône de Dieu. Okay. Et il apporte la guérison aux nations. Voilà. Et là, il y a l'arbre de vie qui a ses deux racines de chaque côté du fleuve et qui des fruits. C'est nous, ça. Dieu veut que nous portions des fruits. C'est formidable, ça. Super, le projet pastoral cette année. Hein. L'idée, c'est qu'on porte du fruit. Il y en a qui veulent porter du fruit. Alors, le projet pastoral va vous aider à porter du fruit. Amen. Ça ne veut pas dire que vous n'en portez pas, mais en portez plus. Amen. Voilà, donc un peu en gros. Alors pourquoi je dis que le baptême de Jésus c'est lié à l'eau qui représente la mort? Quel est le passage théologique qui le marque le plus? Alors là, les baptisés, il faut vraiment que vous répondiez bien, parce que sinon, oh, mon enseignement, là, il passe pas, là. Oui? Bien, Manon! Il y en a qui connaissent l'Arche de Noé? Allô? Et à quel endroit on parle de l'arche comme signe de baptême? Voilà. Dans 1 Pierre, ceux qui le veulent, vous l'avez dans 1 Pierre. Pierre 21. Pierre parle de l'arche de Noé et dit: c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair. Voyez-vous, la souillure de la chair, c'est la purification, c'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. C'est-à-dire que l'eau de la mort, enfin l'eau qui représente la mort, pourquoi représente la mort l'eau d'ailleurs au niveau de Noé? Parce qu'elle a tué, tout le monde. Ok, bon, c'est aussi simple que ça. L'eau qui représente la mort, pourquoi est-ce que elle représente le mieux le baptême de Jésus? Pourquoi? Rappelez-vous, Paul est allé dans une église, il a dit: mais de quel baptême vous avez été baptisé? Ah ben du baptême de Jean-Baptiste. Ah bon? Vous ne connaissiez pas que l'Esprit était donné et il l'a baptisé, il l'a rebaptisé, il l'a baptisé dans le baptême de Jésus. Ce n'est pas les mêmes baptêmes. Pardon? Vous voyez? Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de purification des péchés selon la loi. Selon la loi. Ici, c'est selon la grâce. Voilà. La grâce de Dieu fait que le baptême de Jésus veut que vous mouriez à vous-même. La mort à soi-même, et c'est le signe de l'arche qui a fait mourir tout le péché qui était sur la terre. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. C'est pas formidable ça? Mais c'est facile à retenir quand vous comprenez les images. C'est des symboles de ce que Jésus a fait pour nous. Et donc le baptême de Jésus, c'est pas le même que le baptême de Jean-Baptiste. C'est pour ça que quand je plonge et personne dans l'eau. Je leur dis, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne dis pas que je vous baptise au nom d'une purification selon le rite de Jean-Baptiste, selon le rite de la purification. Ça, c'est du passé. Jésus est venu entre-temps et c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Amen. Pour que nous vivions par sa résurrection. Allons ? Donc l'eau, vous voyez, il faut bien comprendre quand on parle de l'eau, de quelle eau on parle. Et par conséquent, je vais essayer de finir pour m'en tenir à l'objectif. L'objectif de chaque chrétien, de chacun d'entre nous, de l'Église en Jésus-Christ, c'est devenir des télios. D'accord ? Devenir des télios. C'est-à-dire des hommes parfaits, des hommes et des femmes parfaits. Parfaits au sens de continuer, nous sommes dans un processus de perfection qui nous amène dans cette relation avec Dieu, qui nous amène à mieux comprendre, à demeurer dans l'unité de la foi, de la prière, etc., de toutes ces choses. Et donc, quand nous disons que nous voulons bâtir le royaume de Dieu avec l'eau de la vie, l'eau vive, c'est tout ce qu'on a vu, mais en particulier, l'objectif, c'est de devenir des télios, c'est-à-dire de grandir en maturité. Et c'est exactement comme ça que j'ai intitulé la vision. C'est si vous voulez grandir en maturité, voilà, vous suivez ces étapes, donc tout est expliqué là. Centre-toi sur Christ pour grandir en maturité par la vocation, la vérité et la vertu. Et ce sera un peu le thème de cette année, hein, de ce projet pastoral, pour que nous puissions creuser ces aspects de maturité chrétienne. Comment nous pouvons grandir en maturité? Comment nous pouvons exercer les dons spirituels? Comment nous pouvons utiliser les outils que Dieu nous donne pour aller plus loin avec Cleansing Stream, avec d'autres outils, de manière à ce que nous devenions mûrs. Et ceux qui ne sont pas mûrs, qu'est-ce qui se passe, Philippe? C'est le verset précédent que j'ai lu dans Philippiens. Pardon? Voilà, on tombe dans les fausses doctrines. Parce que les Corinthiens se sont trouvés dans les fausses doctrines. Okay. Paul a dit, mais pourquoi Apollos? Il y en a qui disent d'Apollos chez vous. Alors, vous vous dites d'Apollos, vous vous dites de Paul, et vous vous dites de Christ. C'est quoi ça? Vous êtes des népios, des enfants, des petits-enfants, ou vous êtes des sarconeuils? Vous n'êtes pas des télios. Je ne peux pas vous parler. Quand on n'est pas un télios, on est automatiquement pris par des partis pris. Il dit, mais il y en a qui sont des partis pris. Il y en a qui sont pour celui-là, pour d'autres, mais vous êtes complètement charnel, vous n'avez rien compris. Mais on ne peut pas comprendre si on n'est pas dans ce processus de perfectionnement. C'est pas possible. C'est simplement impossible. Donc, on ne peut pas essayer de faire des efforts pour comprendre, de ne pas tomber dans les fausses doctrines. Il faut simplement accepter de croître en Christ, et alors on sera préservé automatiquement parce que on discerne les fausses doctrines. On discerne. Voyez, et à ce moment-là, on peut se préserver du malin. Amen. Voilà donc l'objectif du projet pastoral cette année, c'est de nous aider à être sur le roc, hein, comme je l'ai fait ce matin, hein, sur le roc de la parole. Amen. Le roc, il bouge pas, hein, c'est Jésus en dessous. Okay. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est pas Jésus au-dessus. Okay. C'est pas moi. Hein. C'est moi, je suis sur le roc. Amen. Et alors, je peux grandir en maturité. L'Église peut grandir en maturité. Et toutes les forces diaboliques qui vont venir, parce qu'elles sont toujours là, hein. Seulement, elles pourront rien faire. Elles seront arrêtées. Amen. Elles seront arrêtées. Amen. Et sont arrêtés parce que nous sommes sur le roc. Et rien ni personne ne pourra nous tenir. Mais il faut continuer à marcher dans le perfectionnement que le Seigneur veut. Seigneur, nous te prions que cette année, nous puissions vraiment grandir dans cette qualité d'hommes et de femmes qui veulent aller jusqu'au bout avec toi et qui veulent se perfectionner pour grandir en maturité. Et que les forces de l'enfer, comme tu as dit, ne prévaudront pas contre l'Église. Mais Seigneur, il y a une condition, ça dépend de nous. Et nous voulons être ces hommes et ces femmes qui disent oui Seigneur. Aide-nous par les dons et les ministères que tu as donnés pour nous perfectionner, afin que nous puissions tenir au temps convenable et remporter le prix de la victoire, la couronne qui nous attend. Nous voulons travailler à ta gloire au nom de Jésus.